Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Cibourg, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils veulent le pouvoir pour vous pourrir la vie. Parce que la leur, elle est finie. Mais elle continue quand même.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale vieillesse qui fait peur, car oui, nos anciens sont souvent au cœur du cinéma horrifique. Alors nous aborderons divers films consacrés à ce qui peut être considéré comme un sous-genre du cinéma d'horreur. En partant, puisque le film qui nous a donné envie de parler de tout ça, c'est Hex, ou X, si on prononce à la française, de Ti West. Et oui, l'un des derniers films de Ti West, première partie d'une trilogie dont on va parler là, dans l'émission. Mais on parlera aussi de plein d'autres films. On parlera entre autres de films signés Paco Plaza, de films signés M. Night Shyamalan. Il y a plein de choses que l'on va aborder durant cette émission. Plein de choses terrifiantes. Et je précise que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, que vous pouvez trouver soit directement sur le site de l'éditeur TheExtasioFilm.com ou sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et puis également disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies. Pour causer vieillesse qui fait peur, donc je me suis entouré d'un vieux comme moi, parce que nous on est des vieux, et d'un jeune, c'est comme ça. D'ailleurs on va commencer par le jeune. Toi, mon ami le jeune, Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Alors lui, il est très 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 âgé parce qu'il a trouvé une sorte de, comment dire, de méthode pour être invincible, pour survivre au temps. Et oui, pour le tuer, il faut des balles d'argent. Il n'y a que ça qui marche. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland, alias le loup-garou Picard, le créateur de l'émission À l'écoute du cinéma qui est diffusée sur RCA. Et puis aussi également le rédacteur en chef de la revue Prime Cut. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien. Et je tiens à préciser que quand même, la vieillesse est dans la tête. Et puis donc, salut à toutes.
Lors de nos échanges entre membres de la rédaction, parce qu'il nous arrive comme ça de nous réunir, alors de manière virtuelle ou alors en studio, et puis de se dire, mais de quoi parlerons-nous dans les prochaines émissions? Alors parfois nos choix sont dictés par l'actu, et puis parfois on décide de se faire une petite émission thématique, comme cette semaine. Une émission qui n'est pas spécialement mue par une sortie particulière, si ce n'est qu'au moment où vous l'écouterez, sera certainement disponible dans un format Blu-ray ou DVD, le film de Ti West X. Et normalement, on pense que Pearl sera sorti deuxième volet de cette trilogie, voilà, en attendant Maxine, qui sera le troisième volet. Alors de quoi je vous parle quand je vous parle de X? Parce que X, c'est quand même le film qui nous a donné l'idée de l'émission que l'on va faire aujourd'hui, une émission centrée autour de la vieillesse qui fait peur. Voilà, et d'ailleurs, rendons à à César ce qui appartient à César, hein, c'est-à-dire rendons à Damien Demey qui a eu l'idée de cette émission, sans doute parce qu'il est entouré de vieux dans cette émission, voilà notre jeune Damien. Et donc l'idée c'est de partir du film de T. West et puis de, on s'est rendu compte en fait en partant de ce film de T. West que la figure du vieux en fait c'est une figure récurrente de l'horreur hein, depuis des décennies et des décennies, figure récurrente aussi parce que bah, évidemment la vieillesse ça fait un peu peur à tout le monde hein, alors même si notre ami Thomas comment dire en faisant tomber sa canne nous disait que la vieillesse c'est dans la tête sérieusement, la vieillesse c'est dans la tête, mais c'est aussi dans les articulations. On le sent un peu passer avec le temps, voilà. Et donc, évidemment, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de l'inconnu. Et le vieux, ben ça fait peur parce que le vieux qui a l'air tout gentil, le gentil papy, eh bien, il peut cacher un monstre terrible. Et là, en l'occurrence, un couple de papy et de mamie à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, perdu au fin fond du Texas et qui ont une maison, enfin une vieille ferme avec une cabane, une cabane qu'ils louent comme ça pour quand les jeunes viennent s'y installer de temps à autre. Et puis là, ils vont louer cette cabane à une bande de petits jeunes qui vient tourner un film pornographique. Alors un film pornographique, ça se passe dans les années 70. Hein. Un film pornographique qui a pour vocation à être un film pornographique quand même ambitieux. Donc il y a le producteur, il y a le réalisateur avec sa copine Jenna Ortega. Jenna Ortega qui joue mercredi dans la nouvelle version de La Famille Adams qui cartonne actuellement. Elle est peu farouche d'ailleurs dans le film de T. West. Hein. Et il y a Brittany Snow qui fait une actrice qui évoque en fait, qui est une sorte de, qui est maquillée et qui est une sorte de sosie de ces actrices un peu à la Gingerlin, Bambi Woods, qui étaient des actrices mythiques du porno américain des années 80. Et puis il y a Mia Goth qui est au centre vraiment de cette trilogie, Mia Goth qui est en fait avec ses taches de rousseur qui évoque un peu Linda Lovelace, hein, la référence est assez évidente, et Linda Lovelace, hein, Gorge Profonde, enfin voilà les premiers films X importants dans l'histoire du cinéma, les premiers films pornographiques importants dans l'histoire du cinéma qui vont attirer d'ailleurs les foudres de la censure, ça va donner, on en a déjà parlé dans cette émission, des moments assez incroyables, on va voir Warren Beatty venir au secours et Jack Nicholson venir au secours d'un tout petit film porno qui s'appelle Gorge Profonde, Deep Throat. Tout cela est assez cocasse quand on y repense aujourd'hui, voilà, et assez triste quand on voit ce qu'est devenu la pornographie aujourd'hui, voilà. Le truc, c'est qu'ils viennent tourner ce film, alors dans une ambiance plutôt festive, une ambiance plutôt sympa, il n'est pas question particulièrement de domination masculine ou de masculinité toxique, c'est pas ça du tout le sujet du film. Non, le sujet du film, ça va être la libido des vieux, en fait, et en particulier d'une vieille, qui est donc cette vieille dame qui habite juste dans la maison à côté, puisque c'est elle qui leur loue la petite baraque dans laquelle ils sont censés tourner. Et cette vieille dame donc, qui vit avec son mari, ils sont très âgés, elle a comme un boost de libido en voyant arriver ces petits jeunes là, qui se baladent tout le temps à poil, qui sont tous beaux, les garçons sont beaux et musclés, les filles sont super jolies. Donc voilà, mais elle est un peu très très énervée. Bon, le truc, quand même, les amis, c'est que ça va tourner au massacre, tout ça.
La fille du fermier, prise 1.
Il faut que je sois célèbre, Wayne. Tous les meilleurs le sont.
Il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que t'es faite pour être une star. Les temps durs seront bientôt derrière nous.
Hollywood, on arrive.
On y est. On a notre propre décor, maintenant.
Vous cherchez un endroit où rester ?
Oui, monsieur.
Il est vraiment affreux, le vieux.
Vous écoutez Culture Brut.
C'est un film qui est quand même assez triste parce que c'est quand même l'histoire d'une femme, cette vieille femme donc, qui regrette de n'avoir pas pu partir de ce trou dans lequel elle habite, de n'avoir pas pu faire une vie flamboyante, devenir quelqu'un en fait. Et donc, effectivement, il y a ce côté, c'est la libido qui la titille, il y a le... Je pense qu'il y a la peur de la mort hein, qui l'a dit, le fait de voir sa fin arriver à grands pas de plus en plus et qu'elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas de vieillir. Son mari peut-être un peu plus, mais elle n'accepte pas de vieillir. Elle n'accepte pas d'avoir, de ne pas avoir vécu, de mourir sans avoir vécu la vie qu'elle voulait vivre en fait. Voilà.
Parmi le casting, il y a aussi le musicien Kid Cudi qui est dedans, mais qui, c'est très drôle d'ailleurs parce que quand j'ai vu... Quand on regardait les bandes annonces, c'était indiqué Kid Cudi, mais durant le film, il prend du coup un nom d'acteur, ce qui arrive à beaucoup de musiciens lorsqu'ils font un film, qui est Scott Mescudi, mais qui n'est pas son premier film dans sa carrière. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, l'un des meilleurs films de 2022, selon moi. Il atterrit facilement dans mon top 10. Il a ce petit côté au début, Hillsploitation, parce qu'on a vraiment le type des jeunes qui vont dans la campagne avec toute une ambiance à la Massacre à la tronçonneuse. Et quand on débute le film, on ne sait pas vraiment vers où. Enfin, on pense que le film va nous indiquer dans une direction. Et le fait qu'on arrive dans un couple de vieux, on réfléchit par rapport aux événements qui pourraient arriver. J'aime beaucoup l'esthétique. Je trouve que la photo est très belle. On plonge facilement dans... Du coup, l'action se passe en 1979 et je trouve qu'on retrouve bien cette ambiance dans le film. Et comme tu l'as dit, Jérôme, ça touche à différents tabous, dont la vieillesse et le désir qui va conduire à l'horreur qui va au final se manifester par le sang. Et c'est un film qui m'a donné du coup l'idée de l'émission. Et, parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, on va revenir dessus, il y a de plus en plus de films qui mettent en avant justement... cette vieillesse qui effraie, qui ressurgit, alors que c'est un tabou des sociétés qu'on a depuis longtemps. J'ai l'impression que depuis environ 7 ans, c'est quelque chose qui est de... On a au moins un film tous les ans qui en parle.
C'est vrai que ça a été beaucoup vendu comme une version, comment dire, une version nouvelle du Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper originel. Alors, on reprend effectivement des plans un peu de l'original, et en particulier cette porte de maison. Et quand on rentre, il y a une deuxième porte qui est la porte derrière laquelle il y avait Leatherface. Bon, là, il n'y a pas Leatherface, mais en voyant le plan en question dont je parle, là, ceux qui ont vu le film me comprennent, ceux qui vont le voir me comprendront. On a vraiment l'impression de se retrouver dans Massacre à la tronçonneuse. Mais c'est faux de croire, en fait, que c'est un film qui cite énormément et qui est un film plein d'hommages. Il y a des petites touches comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, l'actrice qui ressemble à Linda Lovelace, enfin, qui est un peu lookée comme elle. Mais ce qui est intéressant dans le film, qui est un film vraiment sur ce qu'est le cinéma et son évolution aussi depuis les années 70, c'est-à-dire que le film démarre filmé en 4 tiers, ça c'est une super idée de mise en scène, alors qu'en fait c'est juste l'embrasure d'une porte, enfin, après la caméra progresse dans le champ et on s'aperçoit que c'est l'embrasure d'une porte et que le film est vraiment filmé en plan large comme on les filme aujourd'hui, voilà. Mais c'est par ce procédé de mise en scène, T. West nous dit voilà, ça va être un petit voyage dans le temps, mais c'est quand même un film qui est en lien avec les préoccupations d'aujourd'hui. Je trouve ça bien foutu. Puis le film est un jeu de miroir, parce que Thomas, tu l'as dit, cette femme, Pearl, elle rêve d'une autre destinée. Ce qu'on découvre d'ailleurs dans ce qui est pour moi, ce qui aurait dû être pour moi, mais il n'est pas sorti au cinéma en France, le film que je voulais mettre comme film préféré de 2022, qui est Pearl de T. West, qui est la suite de ce film, hein, qui n'est pas dans le même sujet, puisqu'on n'est pas sur la vieillesse qui fait peur. Là, on est sur la jeunesse de cette vieille femme. Là, on découvre sa jeunesse dans un film totalement démentiel. Il faut absolument que le voir, vous précipiter quand ça va sortir en France au cinéma. Là, il tourne dans les festivals, mais je vous conseille vivement de voir cet excellent film, sans doute le meilleur film de T. West. Voilà. Donc, d'ailleurs, T. West, c'est intéressant cette histoire de jeu de miroir, parce qu'il y a un jeu de miroir dans ce film. C'est-à-dire, c'est un film sur l'illusion, c'est un film où la question de la télévision aussi est importante. D'ailleurs, on a une révélation à la télévision, à la toute fin du film, une révélation savoureuse sur le personnage de Maxine. Maxine qui sera au centre du troisième film de la trilogie, puisqu'on découvrira la vie de Mia Goth sous les traits de Maxine en tant que star du porno. Maxine, dont je vous invite à voir la bande-annonce, qui est très maligne, hein, parce que le film, au moment où il a fait la bande-annonce, n'était pas encore tourné. C'est qui est très maligne, qui utilise bien le format VHS. Donc ça promet aussi pour ce troisième film de la trilogie. Que pour une fois, on attend vivement la suite du film, parce que je le dis, hein, Pearl, c'est encore meilleur que X. Voilà. Donc, dans X, il y a ce côté jeu de miroir, parce qu'en fin de compte, Maxine, c'est Pearl. Pearl, mais qui serait allée au bout de ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire faire du cinéma, ce qu'on va découvrir dans Pearl. Dans Pearl, elle veut faire du cinéma, en fait. Elle veut jouer dans les musicaux de l'époque et tout, elle veut faire du cinéma. Et en fait, Maxine, elle est ce qu'elle aurait voulu être. Et ce personnage de Pearl, il faut le préciser aussi, est interprété par Mia Goth, qui est maquillée pour l'occasion. Et c'est aussi Mia Goth qui joue le personnage de Maxine. Donc ça fait un effet, encore une fois, un effet de miroir très très intéressant. Mais tout cela, on n'est pas dans les Helvetii d'Aurore et dans le truc un peu chichiteux, là, comme à la mode un peu ces dernières années, qui a permis un peu de, vous savez, les Midsommar et tout ça, ce genre de film. Là, on est quand même dans un film, c'est un bon basique quand même de film d'horreur qui vise à nous faire voir un vrai film d'horreur. D'ailleurs, vous verrez, quand vous verrez Pearl, on est là aussi dans du bon gros film d'horreur. On reconnaît bien là à T. West cet amour de la série B jouissive, même si je trouve que c'est un réalisateur inégal. Mais là, je trouve que c'est deux meilleurs films, franchement. Alors, la vieillesse qui fait peur, à travers Marie von Orhoff, actrice mythique des productions Corman et des films de Paul Bartel, il l'avait déjà illustré, ce thème, dans un film qui s'appelle The House of the Devil, dont on avait déjà parlé dans l'émission il y a de nombreuses années. C'était une de nos toutes premières saisons, puisque je me rappelle qu'il y avait encore Christophe Cosins dans l'émission et Pierrick Guenet, que je les salue. Donc ça date quand même d'il y a quelques années. Et donc c'est un sujet quand même qui intéresse et qui travaille notre ami T. West et qui, plus d'une dizaine d'années après, nous ressort ce sujet. Parce que là, il faut le dire clairement, notre vieille dame est en fait une émule du pire des serial killers de l'histoire de la fiction américaine, quoi. Voilà, donc ça rigole pas trop. Puis on a oublié de le dire aussi, il y a aussi une référence à un autre film de Tobe Hooper qui est Le Crocodile de la Mort, mais je vous en dirai pas beaucoup plus. Et ce film, effectivement, il s'inscrit, tu le disais Damien, depuis 7 ans, même depuis plus longtemps, dans nos civilisations modernes, le vieux fait peur. C'est-à-dire ce qui nous renvoie de nous-mêmes. Bon, récemment, il y a eu les scandales Orpea, il y a eu deux livres parus sur le sujet, enfin, un premier livre et puis une version avec 10 chapitres en plus du même livre. Le vieux fait peur, le vieux est mis dans une maison de retraite. Le vieux est maltraité et le vieux, on s'en occupe pas, on laisse vieillir et mourir seul. C'est un peu les thématiques développées dans pas mal des films là qu'on va aborder aujourd'hui.
Voilà.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale vieillesse qui fait peur.
Mais le vieux peut aussi être méchant, hein, parfois dans les films, et être vraiment méchant. Et il y a un film qui récemment développe cette thématique de la personne âgée méchante, si j'ose dire, c'est Abuela. Abuela, en espagnol, ça veut dire la grand-mère, qui est un film de Paco Plaza. Alors, j'attendais pas forcément grand-chose de Paco Plaza, qui est un réalisateur honorable, qui est un bon réalisateur, hein, qui a démarré sa carrière avec Les Enfants d'Abraham et L'Enfer des Loups, qui étaient des films qui sont sortis, c'est quand même bien Les Enfants d'Abraham, hein, mais qui sont sortis à un moment où le cinéma espagnol fantastique connaissait une vague importante et une grande reconnaissance dans le monde entier. C'était une époque un peu bénie, puis après, il va travailler sur la trilogie REC qu'il va co-réaliser avec Balaguero. Et il va faire quelques films comme Veronica et puis un polar que je trouve très moyen, Eye for an Eye. Et Il arrive en 2021 avec Abuela, qui pour moi a été une des meilleures surprises dans les films que j'ai vus en 2021-2022, puisque souvent quand on n'attend rien d'un film, bah on est du coup agréablement surpris. Là, c'est assez simple, hein, le pitch. Le film démarre par un flash-forward quand même, hein, qui peut du coup nous laisser deviner ce qui va se passer dans le film. Et c'est pas très gênant en fait, parce que du coup ça rend cette grand-mère inquiétante, ça donne un autre propos au film, je trouve. Du coup, le thème est fixé d'entrée de jeu. Le thème, ce sera cette vieillesse toxique, parce que c'est vraiment une vieillesse toxique. Et elle a une petite fille, donc c'est sa seule famille, elles sont que deux dans cette famille, qui est un mannequin, un jeune mannequin de 25 ans qui s'appelle Susanna. Une grande tige avec des jambes de 2,12 m et qui travaille à Paris, qui est en train de percer, mais qui n'est pas un top modèle, hein, qui est en train de percer, qui est en train de se faire remarquer. Et elle est appelée par l'hôpital central de Madrid. On lui dit que sa grand-mère, donc, qui s'appelle Pilar, a eu un grave accident. Alors, grand-mère qu'on a vue au début, en fait, faire quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi. Et que du coup, elle est complètement mutique depuis cet accident. Donc elle se rend en Espagne, elle s'occupe de sa grand-mère, mais ça s'éternise. Je ne vous raconte pas comment, mais la grand-mère, en fait, à chaque fois, trouve le moyen de l'empêcher de quitter l'appartement. Elle essaye de lui trouver une aide à domicile, elle essaye de la placer en maison de retraite. Bon, c'est assez radical, hein. On se demande si la grand-mère a des pouvoirs maléfiques et tout, parce que bon, tous les vieux crèvent et la maison de retraite brûle, voilà, comme par hasard. Enfin, elle peut la mettre nulle part, elle est coincée avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la vieillesse est vraiment vécue comme toxique. Elle, qui vit sur sa beauté et sa jeunesse, va voir petit à petit, ça c'est hyper intéressant dans la mise en scène, c'est une mise en scène très travaillée. Le film est très, presque froid avec une mise en scène, avec un choix dans les cadres et dans le découpage qui sont assez précis. C'est une sorte de... un film, c'est une horloge, ce film, en fait. C'est l'horloge qui tourne, c'est le temps qui tourne. Et par exemple, au début, elle voit des pubs avec elle dans la rue et tout. Et petit à petit, elle est remplacée par d'autres mannequins, par d'autres... Son image à elle s'efface au fur et à mesure qu'elle est contaminée par la vieillesse toxique de cette grand-mère, qui n'est évidemment pas une grand-mère comme les autres, qui est une grand-mère qui a bon, un petit plus ou un petit moins, ça dépend comment on le prend. Tout ça va déboucher sur un film que je trouve vraiment flippant. Moi, j'aime beaucoup. Et il arrive même, je trouve, à rendre efficace des séquences déjà vues mille fois. Il y a une séquence avec des miroirs à laquelle on peut s'attendre et qui, en fin de compte, fonctionne très, très, très bien parce qu'il s'y prend très, très bien. Voilà, je vais pas vous en dire... vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que Paco Plaza arrive à rendre effrayant quand même le simple plan d'une grand-mère qui regarde à une fenêtre. Voilà, c'est à la limite, c'est ça les plans les plus effrayants du film. Voilà, c'est cette grand-mère qui regarde à la fenêtre de manière impassible comme ça, qui devient une sorte de figure du mal absolu, qui n'est pas sans rappeler, en fin de compte, ce vieux curé qu'on voit dans La Sentinelle des Maudits de Michael Winner, qui regarde à la fenêtre comme ça et qui est l'essence même du mal. Est-ce que cette vieille dame est l'essence même du mal? Je vous laisse vous faire votre propre idée en regardant le film, mais je vous conseille vivement ce Abuela de Paco Plaza.
J'aime beaucoup le travail de Paco Plaza. Je regarde souvent Rec, que j'aime énormément. J'avais apprécié son Véronica, et ici je vois un peu finalement la progression, une confirmation de ce qu'il avait fait avec Véronica. Je remarque, Jérôme, que tu aimes beaucoup les miroirs, parce que ça fait deux films où tu les évoques. Mais on retrouve, comme tu l'as dit, un poids de la vieillesse sur les jeunes avec une certaine crispation. Je dirais pas directement qu'elle est toxique. Je dirais que ça se met en place au fur et à mesure du film. Et c'est ce que tu as dit, c'est qu'elle est encore jeune, enfin elle est mannequin et elle approche de la trentaine, ce qui fait que pour un mannequin, elle est déjà très vieille. Et justement, au début du film, elle rencontre un photographe dont la spécialité, c'est de prendre les mannequins sur leur déclin pour leur redonner un boost de carrière. Et lorsque elle travaille à Paris d'ailleurs, et lorsque sa grand-mère a un problème en Espagne, à Madrid, je crois, elle rentre. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a cette tension qui se crée pas entre les deux personnages, mais au niveau du film, qui est elle qui est sur le point de relancer, enfin de lancer vraiment sa carrière, vu qu'elle a jamais vraiment décollé, mais elle a enfin cette possibilité. Et en même temps, elle aime sa grand-mère a un problème, du coup, elle doit rentrer au pays pour s'en occuper. Et au fur et à mesure, cette façon de s'occuper de ses grands-parents, comme tout le monde voudrait faire chez soi, devient problématique et toxique pour l'héroïne. Mais j'aime beaucoup le fait que, justement, comme pour X, on retrouve finalement ses grands-parents qui sont une menace, mais une menace humaine. Enfin, une menace pour lesquelles, de base, on les perçoit juste comme des personnes âgées. Et en fait, on voit. Enfin, ce qu'on pourrait considérer comme étrange, on le prend juste pour quelque chose qu'on pourrait mettre en même temps. Oui, ils deviennent séniles et tout. Ce qui n'est pas le cas dans les deux films. Ce sont des personnes qui sont vieux, qui ont toute leur tête et en fait qui subissent la vieillesse.
Et puis, ce qui est intéressant, moi, je vais m'arrêter là sur ce film. C'est quand même, on nous montre un truc qu'on ne nous montre pas souvent dans les films. C'est-à-dire. C'est presque un postulat de comédie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va s'occuper. Plein de bonne volonté de cette vieille personne. Et en fait, elle est imbitable. On veut s'en débarrasser, quoi. Parce qu'elle lui fait vivre un enfer, quoi. Et c'est un sujet quand même assez... c'est assez gonflé, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais, Damien, que tu étais venu avec sous le bras avec un autre film qui met en vedette Sandra Oh, hein, actrice plus connue pour ses prestations sur le petit écran, qui s'appelle Uma.
Uma de Dirish Kashim, qui est sorti en 2022. Donc on est un peu sur les trois films dans la même temporalité, 2021-2022. Le film nous raconte l'histoire d'Amanda qui vit heureuse dans son ranch en Californie avec sa fille Chrissy. Elles vivent coupées du monde, sans électricité ni téléphone portable. Et seule Danny vient leur rendre visite pour récupérer des cartons de miel, car Amanda est apicultrice. Un jour, sans prévenir, l'oncle d'Amanda débarque, arrive chez elle directement de Corée du Sud, pour lui annoncer la mort de sa mère et lui apporte des affaires, dont l'une funéraire. Cette visite ébranle de peur Amanda, qui en fait redoute de devenir comme sa mère, avec qui elle avait une relation très conflictuelle, et tout dérape à partir de cette rencontre. Donc comme tu l'as dit, Sandra Wu est connue pour sa activité sur petit écran. Tout le monde va la reconnaître grâce à Grey's Anatomy, mais je vous conseille les séries très rafraîchissantes Killing Eve et Invincible, qui est une série animée adaptée d'un comics. Je retombe donc sur mes pieds ici. La fille est jouée par Fivelle Stewart, qui joue bien, un peu effacée mais très présente. Et on a aussi Dermot Mulroney, qui est intéressant parce qu'il joue dans Insidious 3, là où Jenna Ortega avait joué dans Insidious 2, et les deux seront au casting de Scream 6 qui arrive. La boucle est un peu bouclée. Alors c'est un film produit par Sam Raimi, qui a lu le scénario et qui l'a adoré. Au niveau du résultat du film, j'étais un peu mitigé. En fait, je m'attendais à plus ce qu'ils évoquent, les poids de la tradition coréenne, notamment des parents et de la parenté, avec tout un mysticisme que le film ne fait pas. En fait, on retrouve des éléments un peu mythiques asiatiques, mais c'est un film au final assez froid qui joue beaucoup au niveau de la relation. On retrouve un peu ce côté miroir, comme tu aimes, Jérôme. On a un prisme finalement de la double nationalité assez léger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait une peur qui peut arriver dans plusieurs familles, c'est d'avoir des parents qui sont pas formidables, pour ne pas dire affreux, et on a toujours peur au cours de notre vie finalement de finir ainsi. Et c'est un film qui, à travers cette peur et cette frustration, va parler du manque de dialogue familial, qui est bien traité, mais qui n'est pas aussi bien traité que dans d'autres films qui ont pu sortir cette année, comme Everything Everywhere All at Once. Mais c'est un film donc qui, avec X, m'a fait penser finalement cette résurgence du thème de la vieillesse comme peur sociétale omniprésente.
Grand-mère, grand-mère, j'aime quand tu me racontes des histoires. Grand-mère, grand-mère, oui, surtout celle de quand t'as glissé sur le trottoir. Et oui, grand-mère, il est très bon ce thé. Et non, ça ne me gêne pas que t'enlèves ton dentier. Ce qui me met un peu plus mal à l'aise, c'est que là, grand-mère, t'es en train de pisser sur ta chaise. J'ai rien dit quand tu m'as pris pour le jardinier. J'ai fait semblant de ne pas t'entendre péter. Mais là, c'est dégueulasse, vraiment. Grand-mère, je crois qu'il est temps.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire et après tu meurs.
Ce thème, comme je le disais tout à l'heure, de la vieillesse qui fait peur, c'est quelque chose qu'on trouve. Alors, qui avait un peu été relancé quand même il y a quelques années par M. Night Shyamalan avec son The Visit.
quand même, hein, The Visit, qui racontait l'histoire de gamins qui devaient aller, qui étaient un peu punis et qui se retrouvaient à aller chez leurs grands-parents qui habitaient un coin paumé et qui découvraient... Alors c'était un fun footage, hein, et qui découvraient que leurs grands-parents avaient un côté maléfique, était bien flippant, avec des petites références à la même Hansel et Gretel, à un moment où on fout les enfants dans le four et tout. Enfin bon, bref, qui était un film assez réjouissant et pour moi un très bon M. Night Shyamalan, même si on ne profitait pas de ses capacités de metteur en scène, parce que c'est un bon metteur en scène, M. Night Shyamalan, qui fait beaucoup de mauvais films, mais c'est un bon metteur en scène. C'est-à-dire qu'il a, je trouve qu'il manie bien la caméra, mais malheureusement, il fait des mauvais... D'ailleurs, son film qui s'appelle Old, très récent, je vous le déconseille fortement, c'est très, très, très mauvais, hein, quand même. Hein, c'est un des pires films que j'ai vus ces dernières années.
Mais il parle de la vieillesse.
Et il parle de la vieillesse, et de la vieillesse qui fait peur, puisque le principe de Old, c'est donc un thème qui travaille, notre ami M. Night Shyamalan. Le principe de Old, c'est l'histoire, en fait, de personnes qui se retrouvent qui vont dans passer des vacances dans un endroit paradisiaque, et quand ils vont dans cet endroit paradisiaque, à un moment, on leur dit, là, il y a une petite crique, un petit endroit merveilleux où vous pouvez aller. Ils s'y rendent et en fait, ils vieillissent à vitesse grand V. C'est-à-dire que en l'espace d'une journée, ils passent de vie à trépas, ils deviennent très vieux en l'espace d'une journée. Voilà. Ça va donner lieu à un film ridicule avec des scènes ridicules. La scène de l'accouchement est ridicule. En plus, il va jamais au bout de ce qu'il veut faire dans le film, donc c'est vraiment loupé, quoi, du coup, quoi. Il va pas au bout de son propos, et puis il zappe l'aspect gore, l'aspect violent. Enfin, pour moi, le film est loupé, et je vous conseille plutôt de revoir The Visit.
Oui, je suis d'accord avec toi, Old est totalement loupé. Je détestais le voir, et je pense que, vu que c'est une adaptation, j'ai l'impression que M. Night Shyamalan est piégé par le rythme du bouquin qu'il a dû adorer et qu'il veut juste remettre à l'écran, mais au final, il l'adapte pas, il le filme juste. Et The Visit était très intéressant, c'est juste avant qu'il y ait un retour de la noblesse de M. Night Shyamalan, c'est juste avant qu'il fasse Split, donc avant qu'on lui reconnaisse, qu'on pense qu'il revienne et qu'il enchaîne avec Old et qu'on fasse un peu marche arrière dessus. L'esthétique found footage de The Visit est très très cool. Elle marche énormément vu que ce sont des jeunes qui finalement filment tout. Donc ça rend l'utilisation de la technologie logique et originale avec le propos. Il y a une certaine fraîcheur au niveau du found footage où on change d'éléments, c'est-à-dire qu'on se concentre sur cette vieillesse comme menace, qui est le premier film que j'ai vu qui en abordait la thématique. J'aime beaucoup parce que ça renvoie une peur générationnelle qui est de base très japonaise habituellement. Les Japonais ont toujours cette peur de la fracture avec les jeunes et les aînés. Et ici, on le retrouve dans un film américain qui finalement le réévoque. On se retrouve avec les petits-enfants qui vont voir les grands-parents et les grands-parents que la mère n'a pas vu depuis extrêmement longtemps vu qu'elle est en froid. C'est un peu le pacte de remettre finalement en marche cette famille qui va au final très mal tourner.
The Visit qui avait été une des bonnes surprises de 2015, effectivement, surtout de la part d'un M. Night Shyamalan qui était au fond du trou. Hein. Il venait de nous faire Le Dernier Maître de l'Air, tous ces trucs de science-fiction vraiment très très mauvais. Et c'est vrai que ça l'a remis en scène. Cette petite production, je crois que c'était Blumhouse hein, d'ailleurs, c'était déjà Jason Blum, ça a relancé clairement sa carrière jusqu'à ce qu'il se tire une balle dans le pied avec Old, là, sorti au cinéma 2022, je crois, hein, et qui a été un peu catastrophique quand même. Mais Damien, ce thème-là de la vieillesse qui fait peur, eh ben, il date bien avant de Visite. Alors, moi, je voulais vous parler d'un film qui est un film dont j'avais un souvenir un peu ému, parce que c'est un film, d'ailleurs, dont j'ai toujours la VHS. Et il vaut mieux avoir la VHS, parce qu'en DVD n'est pas sorti la version intégrale. En tout cas, le DVD sorti chez Trauma ne présente pas la version intégrale. Alors, je crois qu'il y a un DVD néerlandais qui présente la version intégrale, qui est Rabbit Grannies, un film de 89, qui est un film bis totalement déjanté, franco-belge, c'est un film complètement starbé, complètement bis, les acteurs sont très mauvais, les acteurs sont très mauvais, c'est du Z, hein, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est un film qui a un charme fou. Alors, on est dans un manoir, au milieu de nulle part. Et il y a Victoria et Elizabeth Remington, qui sont des mamies adorables et très, très riches, évidemment, qui fêtent leur 92e anniversaire, voilà. Et toute la famille est réunie pour l'occasion. Hein, chacun a envie d'être gentil avec elle, surtout pour récupérer l'héritage, quoi, voilà. Avec une famille quand même composée de personnages tous plus starbés les uns que les autres. Un marchand d'armes, un séducteur assez insupportable, un couple de beaufs, un PDG, un gros repoussant, qui vit avec une jeune épouse, évidemment, voilà. Il y a aussi, alors mon préféré, c'est un curé pas sympathique du tout, qui est très très drôle, voilà. Et tout cela est mis en scène par Emmanuel Carvin. Et Emmanuel Carvin, quand même, faut savoir, au départ, lui, c'est un mec qui fait de la tatane, quoi. Il s'imaginait en nouveau Jean-Claude Van Damme. Et donc, au départ, il voulait faire un film d'action. Et faute de pognon, on lui dit non, bah tu vas faire un film d'horreur. Il connaît rien en film d'horreur, il sait pas comment faire pour faire les effets spéciaux. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à Mad Movies, la revue Mad Movies, et il dit est-ce que vous connaîtriez pas des gars pour faire les effets spéciaux pas chers? Et il va trouver donc Sébastien Fernandez, qui va venir et qui va faire des bons effets spéciaux, parce que à chaque fois que le film a eu des récompenses dans des festivals, c'était les meilleurs effets spéciaux. Donc il va faire des... Et c'est un film, en fait, on parle souvent de Braindead. On peut même se demander si c'est pas une sorte de brouillon à Braindead, voilà, ce film-là. Le Braindead de Peter Jackson, qui sortira 3 ans plus tard. Donc on peut se demander s'il a vu ce film qui raconte un peu une histoire, enfin en tout cas qui est un peu similaire, qui ressemble un peu, voilà. Et en gros, il va se passer un truc, voilà, à cause d'un cadeau qui va libérer une sorte de malédiction et qui va transformer les deux grands-mères en monstres. Mais alors, elle bouffe tout, elle tue tout le monde, y compris les enfants qu'elle découpe en morceaux. D'ailleurs, cette scène avec l'enfant très très longue va absolument choquer la trauma, quand même, faut le faire, qui va du coup couper la scène et couper d'autres scènes pour le DVD édité, voilà, que vous pouvez trouver, hein, le DVD Trauma, qui du coup est une version censurée. Faut le faire quand même, la trauma qui censure un film. Imaginez un peu le délire de ce film, qui est un film foutraque. Alors, cherchez pas de la grande mise en scène, cherchez pas, voilà. Mais c'est un film bis complètement barré, très très Z, mais très jouissif, hein, très jouissif, et ultra gore, et très jouissif, et très con aussi. Voilà, mais les deux grands-mères, quand même, c'est quelque chose, elles s'en donnent à cœur joie. Ces deux grands-mères sont très très méchantes. Écoutez Culture Prohibée spéciale vieillesse qui fait peur.
La vieillesse a toujours fait peur de tout temps, mais elle a traumatisé surtout mon cher Thomas. Toi, tu es venu avec une tripotée de films, d'un réalisateur dont on a déjà parlé de manière éparse dans l'émission. Elle a traumatisé un Britannique quand même qui s'appelle Pete Walker, qui en a fait un des sujets très importants dans son cinéma.
Oui, un sujet récurrent dans le cinéma de Pete Walker qui, au début, filmait des nudies. Alors voilà, le mec qui passe des nudies au film sur la vieillesse, c'est quand même... ça fait quand même un choc. Hein. Le premier d'entre eux, c'est Flagellation, hein, c'est House of Whipcords, c'est-à-dire la maison du fouet. Et c'est un film assez particulier parce que c'est une jeune femme, une jolie blonde, une mannequin qui est draguée par un beau ténébreux qui se fait appeler Mark E. de Sade. Alors, hein, c'est un peu lourd. Hein.
Mais où vont-ils chercher tout cela, Thomas?
Où vont-ils chercher tout cela? Effectivement. Alors, il l'invite à rencontrer ses parents un week-end. Hein. Alors donc, elle est toute contente, hein, le beau ténébreux, tout ça. Il l'emmène dans sa grosse bagnole et tout. Et en fait, elle va se retrouver dans une sorte de prison, un endroit lugubre dans la campagne anglaise, perdu dans la campagne anglaise. Et puis, dans une sorte de maison de correction. Elle est accusée d'avoir des mœurs légères. Le fait d'être prise en photo et publiée dans des magazines, voilà... Ce n'est pas la belle Angleterre, ce n'est pas l'Angleterre puritaine de ces geôliers. Alors il y a un couple de personnes âgées. Hein. Alors, lui c'est un juge aveugle. Alors donc il signe des trucs, il ne sait pas ce qu'il signe en fait. Et elle c'est une espèce de marâtre. Alors elle s'appelle dans le film, elle s'appelle Margaret Wakehurst. Alors il paraît que au départ Pete Walker voulait juste faire un film de prison lambda typique, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il apprenne que à l'époque victorienne, il y avait une gardienne de prison qui s'appelait Margaret Wakehurst et qui s'est fait virer parce qu'elle avait tendance à trop maltraiter ses prisonnières. Donc il s'inspire un peu de ça, il s'inspire un peu de ce personnage pour faire un film assez glauque quand même. Hein. C'est quand même un film avec... Il y a quand même des pendus, quoi. Moi, je trouve ça dégueulasse. Hein. Les pendus, c'est dégueulasse. Déjà, les exécutions, ça me choque. Mais alors, les pendaisons, moi, je trouve ça ignoble. Donc, ils pendent des jeunes femmes parce qu'elles ont fait trois erreurs pendant leur incarcération. Alors, faut pas déconner. Faut pas voler. Faut pas essayer de s'enfuir, etc. Sinon, pouf, tu te retrouves au bout d'une corde. Et il y a cette actrice aussi qui apparaît pour la première fois dans les films de Pete Walker, c'est Sheila Keefe. Alors Sheila Keefe, elle a un physique bien particulier, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, grande, assez mince, et avec un air plutôt sévère, quoi. Elle incarne vraiment cette vieille Angleterre, en plus de la patronne de la prison, elle incarne vraiment cette vieille Angleterre puritaine, un peu hypocrite, parce que cette geôlière, elle est à la fois sadique, parce que c'est elle qui donne le fouet aux jeunes femmes, qui sont bien sûr cunues, mais non seulement elle aime bien donner le fouet, mais elle aime bien les regarder à poil, les jeunes femmes, là. Il y a ce petit côté un peu hypocrite, un peu du puritanisme victorien. Et donc, il y a chez Pete Walker ce portrait d'une Angleterre qui a peur de la jeunesse, quelque part. Hein, la jeunesse a peur de la vieillesse, qui a peur de la jeunesse. Voilà. Et il y a aussi Frightmare, qui est réalisé la même année, en 1974. Et on retrouve Sheila Keefe dans un autre rôle. Alors, au départ, Frightmare a été pensé comme une séquelle à Flagellation. Et encore une fois, là, on retrouve un couple de personnes âgées. Et alors, on ne sait pas, au début, ça commence en noir et blanc, dans une fête foraine, plus ou moins abandonnée. Puis on retrouve un gars qui frappe à une roulotte. Et puis, plus tard, on le retrouve dans la roulotte avec le crâne fracassé. Et donc, il y a un jugement, il y a des gens qui sont condamnés à une peine d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique. Donc, le temps passe, etc. Et on suit plusieurs personnes. On suit un couple de ce couple de personnes âgées à qui une jeune femme va rendre visite de temps en temps et leur apporte un mystérieux paquet. Puis on comprend très vite que c'est de la viande, en fait. Et en fait... la vieille dame Sheila Keefe, donc toujours inquiétante, hein, toujours très bizarre. Alors, elle s'est passée d'un côté très inquiétant, mais après aussi en même temps d'un côté très 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 pathétique. Il y a ce côté aussi chez Pete Walker qui les vieux qu'il dépeint, les personnes âgées qu'il dépeint, ne sont pas forcément que de simples méchants. Il y a quelque chose, il y a une mélancolie, il y a cette Angleterre qui ne veut pas disparaître, qui donc toujours a peur de la jeunesse. Mais encore, là, c'est encore plus pervers parce que la jeunesse, finalement, elle n'est pas si innocente que ça. Et il y a un troisième film. Alors, ça fait une trilogie avec un troisième film qui est Mortelle Confession, qui, pour moi, est le plus abouti des trois. Mortelle Confession, c'est House of Mortal Sins. Alors, The Confessional, il y a deux titres. Hein. Et là, c'est l'histoire d'un prêtre qui punit les gens qu'il pense devoir être puni. C'est celui qu'il pense être le petit copain qui fait souffrir une jeune femme, dont il tombe amoureux, en fait. Il va même jusqu'au meurtre. Hein. Mais alors, pour moi, c'est le plus abouti au niveau mise en scène, écriture, etc. Parce que ce prêtre, il est extraordinaire parce que non seulement il est inquiétant, on retrouve encore ce côté inquiétant des vieux chez Pete Walker, non seulement il est inquiétant, mais en plus il est sincère dans sa croisade. Il est vraiment pathétique, c'est vraiment un homme qui est, comment dire, il croit vraiment à ce qu'il fait, il croit que ce qu'il fait c'est bien, voilà. Mais en même temps il est quand même manipulateur. Et il refoule quand même un petit côté libidineux, parce qu'il est amoureux de cette jeune femme blonde hein, qui a eu le malheur de venir se confesser un jour, elle s'était un petit peu égarée dans l'église. Et on retrouve aussi dans le casting Sheila Keefe. Alors là, Sheila Keefe, elle ressemble vraiment à un tortionnaire nazi. Hein. La robe longue, droite, un œil en berne, on dirait vraiment qu'elle sort tout de suite d'un camp de concentration. Bon, pour moi, Mortelle Confession, c'est vraiment le plus abouti des trois. C'est vraiment le meilleur. Et il y en a un quatrième. Ça pourrait faire une tétralogie, c'est The Comeback, que beaucoup trouvent moins bien. Mais je trouve que ça pourrait faire une tétralogie, parce qu'on retrouve encore Sheila Keefe. On retrouve encore cette Angleterre qui a peur des jeunes, qui a peur de cette société qui change, qui écoute de la musique qui ne comprennent pas, qui ont des mœurs légères, etc. On retrouve cette même Angleterre incarnée par un couple de personnes âgées qui... je ne vais pas dire le pourquoi ils sont inquiétants, mais il y a Sheila Keefe encore qui tient un grand manoir où va se réfugier pour composer sa musique, hein, un auteur-compositeur de musique pop anglaise qui fait son grand retour sur la scène. Donc à partir de là, il va se passer des choses étranges dans ce grand manoir. Il va entendre des rires, il va entendre des bruits la nuit, il va même voir des cadavres dans les couloirs. Et c'est encore donc on est toujours dans la même thématique avec The Comeback, Hallucination en français de Pete Walker. C'est On en parle un peu plus ces dernières années, mais il n'y a que trois films de lui qui sont disponibles en DVD Blu-ray. Donc, Flagellation et Mortelle Confession sont chez Artus Film, et puis Frightmare, il est chez Uncut. En DVD seulement. I didn't want a part of all that photo album gloom. So I never wrote a Christmas card. The postman passed her by. It never mattered to me that she waited till I slept to cry. Old woman humming traces of some long forgotten tune. Rock me in my cradle, sing me softly in my room.
Vous écoutez Culture Prune.
Sing about a man who gave a picnic on the moon. And he never stopped to thank you for the love he left so soon. The traces of a long forgotten tune you left behind. Make failures of my triumphs.
J'ai vu The Comeback de Peter Walker, donc comme tu l'as dit, Hallucination en français, qui se base justement sur ce que voit ce musicien qui s'est séparé de sa femme et qui loge dans un manoir pour retrouver un peu l'inspiration et avoir un point de chute. Et du coup, The Comeback renvoie aussi à l'idée qu'il va peut-être revenir et à un autre thème sous-jacent du film. J'ai bien aimé dedans ce qu'on retrouvait une ambiance un peu... Ne sautez pas au plafond, mais je trouve qu'il y a une ambiance gothique d'un giallo, qui est une phrase qui compose plein d'éléments, mais que je ne peux pas vraiment définir, je vais la laisser comme ça. Dans l'idée où la maison est isolée et prend un peu cet effet de maison hantée qu'on retrouve dans l'esthétique gothique typiquement anglais, en fait, avec un artiste tourmenté dedans. C'est un film qui est agréable, mais que je trouve pas non plus transcendant. Il y a un côté sanguillonnant et pervers qui renforce l'esthétique gothique à l'intérieur du film, comme pourrait faire le grand théâtre du Guignol il y a des siècles, un ou deux siècles avant, mais qui donne aussi un effet assez moderne au récit, qui fait qu'il s'inscrit dans son époque. Justement, c'est pour ça que je le définis comme une ambiance, comme l'ambiance gothique d'un giallo, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments gothiques anglais, et en même temps on retrouve des thématiques, enfin une petite esthétique de giallo assez sympathique, qui en fait un film assez particulier.
Mais il y a aussi chez Pete Walker cette façon de mêler le vieux et le moderne. Donc effectivement, il y a quelque chose de gothique, ces maisons isolées, que ce soit cette maison de correction, ce centre de correction, ou encore ce grand manoir dans Hallucination, ou même la ferme habitée par le couple dans Frightmare. Il y a ce côté gothique. Et il y a aussi il y a ce côté gris très anglais des années 70. Il n'y a pas de chichi dans la mise en scène de Pete Walker. La lumière est un peu plus travaillée avec dans Mortal Confession, notamment les intérieurs à l'église, où là c'est plus feutré, c'est un peu plus chaud, il y a quelque chose comme ça, mais le reste c'est très froid, c'est très gris. Il y a donc effectivement ce côté, ce mélange entre la modernité et cette esthétique gothique. Je vois un peu ce que tu veux dire par le côté peut-être un peu giallo. C'est les meurtres sont très brutaux chez Pete Walker, notamment dans The Comeback. Hein, le premier meurtre est extrêmement brutal. Même celui dans l'ascenseur. C'est Pete Walker qui tue le personnage, d'ailleurs, dans la scène de l'ascenseur dans The Comeback. Donc, ce sont des personnages déguisés. Donc, ça peut, le fait qu'ils soient déguisés, etc., ça peut renvoyer un petit peu au giallo.
Mais oui, comme tu dis, on retrouve un peu ce mixte, justement, dans Hallucination. Enfin, ce côté passé et miroir, justement, parce que les vieux habitent dans ce manoir isolé et que lui, justement, a un appartement en ville dans lequel il ne peut pas revenir. Et les meurtres tournent un peu autour de cet appartement en ville qui, justement, représente la modernité par rapport à tout ça. Du coup, de manière physique, il manifeste cette confrontation à l'intérieur du film.
Pete Walker, on en avait déjà parlé dans l'émission, en particulier aussi avec David Didlot, d'ailleurs, hein, qui avait fait des bonus d'édition de films de Pete Walker. Alors, Pete Walker, oui, je comprends ton analogie avec le giallo. Alors, pour les anglo-saxons, il a même fait une sorte de giallo qui, pour moi, n'en est pas un, mais qui peut avoir effectivement des corrélations avec la série jaune. C'est Die Screaming Marianne, qui est un film de 71, qui est un peu d'ailleurs le film de la bascule, où Pete Walker bascule du cinéma érotique vers le cinéma plus horrifique. Et avec Suzanne George, qui est une actrice prisée aussi des amateurs de giallo, mais de cinéma bis et de cinéma de genre. Voilà, en général. Et chez Pete Walker, il y a ce côté, je trouve, très cafardeux, très, très mélancolique, comme tu l'as dit, Thomas, assez unique. Des qualités qu'on retrouve, hein, des particularités, en tout cas. Certains vont peut-être pas trouver que ce sont des qualités. Moi, j'aime beaucoup Pete Walker. Hein. Dans La Tour des Monstres. Alors, là, vraiment, je suis remonté en arrière, et j'ai découvert ce film, qui est un film de 74, qui est, qu'on peut trouver dans le catalogue Ciné Plus à la demande. Visiblement, il n'est pas édité du tout en DVD Blu-ray. Hein, qui est un film de Larry Yust, Yust. Donc il s'appelle Homebodies, un petit jeu de mots hein, dans son titre original, et qui en français s'appelle La Tour des Monstres. Alors, l'histoire est assez simple hein, en fait. C'est un groupe de retraités, de personnes âgées quoi, qui vit dans un immeuble et qui est victime de la gentrification. Donc on vient les voir et on leur dit bon bah écoutez, il faut partir, il faut aller dans un autre immeuble, vous inquiétez pas, on s'est occupé de tout. Sauf que eux ils veulent pas partir de cet immeuble, ils veulent rester. Ils y ont passé toute leur vie, toute leur histoire est là. Tout est dans les murs, tout est voilà. Et ces personnes âgées, en fait, là, on n'a plus trop le temps de développer hein, parce que l'émission touche à sa fin. Mais je veux vraiment vous conseiller de voir ce film. C'est un film très étrange parce que par moment on a l'impression d'être face à une comédie, par moment on a l'impression d'être face à un film horrifique. Parce qu'en fait, ces personnes âgées vont être assez radicales. C'est-à-dire qu'elles vont décider de tuer, d'éliminer tous les gêneurs, y compris, ça peut être même des simples ouvriers, des travailleurs sociaux, voilà. Ils vont essayer d'éliminer, voilà, tous les gens. D'ailleurs, ils vont un peu s'éliminer entre eux aussi. Et ça donne un film très étrange. à la fois un peu triste et effrayant, avec ces personnes âgées qui sont très particulières, avec mention spéciale pour une, comment dire, un personnage de vieille dame un peu folle qui est assez effrayante. C'est Paula Truman qui campe une vieille dame un peu folle, un peu dingue. D'ailleurs, c'est la première qu'on voit dans le film. Elle a un rôle vraiment particulier. J'aime bien parce qu'à un moment, il tue quelqu'un. Il faut qu'il se débarrasse de la voiture, mais elle n'a pas conduit depuis 30 ans. Donc, elle prend la bagnole et elle conduit n'importe comment. Enfin, c'est assez cocasse. Le film est plein de scènes cocasses. Comme ça, à un moment, on coule quelqu'un dans le béton. Et puis, il y a un détail qui dépasse du béton. C'est assez drôle. Mais le film a aussi un côté mélancolique, un peu triste. C'est un vrai drôle de film très, très très étrange, que je vous conseille vivement parce que c'est une vraie curiosité, sans être le grand film. Hein, voilà, c'est un film très étrange, très particulier, avec un ton très singulier. Walks in the park on a summer day, lilac and lavender in sachet, Sundays with your friends. Sweet lady fingers and English tea, violets embroidered in organdy, days of let's pretend. John Philip Sousa and Parfait Junes, phosphate and needlepoint afternoons, sassafras Sundays with all your friends. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Moments the calendar can't erase, everything properly in its place. Sundays, please don't end. John Philip Sousa and Parfait Junes, phosphate and needlepoint afternoons, sassafras Sundays with all your friends.